Bonsoir Aude Lavigne, on vous retrouve lundi pour un nouveau carnet de la création. Bonsoir à toutes et à tous. La dispute. Ce soir, la bande dessinée. Ce soir, Joseph Gosne et Antoine Guillot se font face à notre sommaire « Où vous, frères humains de Luz ?» d'après Albert Cohen, c'est chez Futuropolis, Mr. Morgan d'Igor Hofbauer à l'association, L'homme qui tua Lucky Luke de Mathieu Bonhomme chez Dargo. Vers 21h20, Antoine Guillot nous livrera aussi et en plus la revue de presse culturelle quotidienne de La Dispute. Encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de La Dispute ce soir, des invitations pour l'exposition Apollinaire, Le regard du poète, c'est jusqu'au 18 juillet au musée de l'Orangerie à Paris. Enfin, nous avons rendez-vous avec la plasticienne Orlan qui est toute cette semaine l'invitée de La Dispute. Et nous ouvrons cette dispute avec le nouvel album de Luz, un an après Catharsis, dont nous avions parlé ici, qui racontait la tuerie de Charlie Hebdo et les conséquences personnelles de ce drame sur l'auteur. En adaptant Albert Cohen avec ce livre particulier dans l'œuvre de l'écrivain, on y viendra. Luz choisit parler de la haine encore à travers l'antisémitisme, un texte que Cohen résumait ainsi, et reproduit dans le livre de Luz. « Un enfant juif rencontre la haine le jour de ses 10 ans. J'ai été cet enfant. »
C'est un petit air qui fait grincer les dents, un sale refrain plein de mort, et pourtant pas une goutte de sang. Sans revolver ni poison, sans scrupule et sans cadeau, c'est la petite chanson des assassins sans couteau.
C'est la petite chanson des assassins sans couteau.
C'est pour pas cher que la bras de l'ami, celui qui donne, celui qui trahit, 30 deniers, c'est le prix. Pour l'exécution facile des dessins les plus salauds, chantons la cruelle idylle des assassins sans couteau.
Chantons la cruelle idylle des assassins sans couteau.
Oh vous, frères humains, c'est donc le titre de ce nouveau livre de Luz proposé par Antoine Guillot au sommaire de cette dispute. Donc vous ouvrez la dispute en question, Antoine.
On l'entend comme chant de Juliette, il s'agit effectivement de mots qui peuvent tuer. Albert Cohen, quand il écrit ce livre, La première mouture en 1945, il se remémore effectivement cet incident qui lui était arrivé 40 ans plus tôt, et faisant le lien, et c'est les dernières pages où on retrouve là vraiment le texte de Cohen qui le fait, c'est-à-dire cet antisémitisme généralisé qui a abouti au camp de la mort. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup en lisant ce livre, c'est que c'est sans doute la première fois que je vois à ce point une adaptation graphique d'un texte. Une véritable adaptation littéraire en bande dessinée. C'est pas le premier volume des aventures conjointes de Gallimard et de Futuropolis. Il y avait eu les livres de Céline, notamment illustrés par Tardy, et puis tant d'autres qui ont été adaptés, mais il me semble vraiment, et c'est le cas depuis, on l'avait déjà noté au moment de Catharsis, l'événement atroce qui est arrivé à Luz et à ses amis et qui a provoqué ce Catharsis, a en même temps libéré manifestement chez lui quelque chose dans l'invention graphique et dans la manière de retranscrire graphiquement des états de pensée et d'émotions. Ce qui me frappe dans ce livre, dans tout le début, hormis les toutes dernières pages, est muet, ou alors quand il y a du texte, ça devient un objet graphique, c'est-à-dire ce sale juif et ses anathèmes qui sont jetés sur ce petit garçon de 10 ans devient une matière à la fois molle et agressive. Tout ce livre a quasiment été fait au pinceau, là où Catharsis était beaucoup plus gratté, attaqué à la plume. Et cette manière de retranscrire dans les flux et reflux du cauchemar qui arrive comme des vagues, il y a des moments de répit et puis ça repart, donne effectivement le sentiment du rythme même de la langue d'Albert Cohen. C'est très étonnant cette façon de répéter, cette scansion qui devient presque cauchemardesque. C'est-à-dire on est vraiment dans un état de cauchemar où on n'a plus prise sur rien, puis tout d'un coup ça s'apaise et ça repart. Et moi j'ai été extrêmement saisi par la force et l'invention graphique en premier lieu de ce livre de Luz.
Premier regard de Joseph Gosne sur ce livre.
Mais je suis entièrement d'accord, c'est-à-dire qu'on a l'impression, effectivement après le livre de l'année dernière, mais surtout en se plongeant dans celui-là, que Luz s'est totalement métamorphosé. C'est pas un autre auteur, mais c'est quasiment de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il s'est débarrassé de tous ces tics quasiment de langage, j'ai envie de dire, pour passer à totalement autre chose. On est face effectivement à un très grand auteur, dessinateur, graphiste, j'ai presque envie de dire, en fait, parce que on est effectivement dans la construction d'un bout à l'autre du livre, de la construction graphique, de la construction du dessin, de la construction de la construction séquentielle, chose à laquelle dans le fond il nous avait un peu habitués, mais dans des petites bandes dessinées. Alors que là on est dans autre chose, dans un langage en train de se construire. Et moi ça m'a fait énormément penser à Will Eisner, vraiment à la fois effectivement dans la thématique, puisque Eisner a beaucoup tourné autour de cette thématique, le judaïsme, l'antisémitisme, toute la communauté juive à New York notamment, et on retrouve, alors sans peut-être inconsciemment ou pas, je n'en sais rien, on retrouve un peu ces mêmes schémas de construction graphique, la même façon de dépeindre les corps, de les multiplier, de la façon aussi dont ils peuvent se faire écho sur une même page. Il y a beaucoup ça chez lui, et aussi dans cette manière qu'avait Eisner de passer de quelque chose de très urbain à quelque chose de très imagé, et aussi parfois de très rêvé ou cauchemardesque. On est beaucoup dans ces transitions d'un bout à l'autre du livre, et effectivement c'est une fois de plus après Catharsis. À la limite Catharsis, on aurait pu se dire oui, on comprend le choc d'après l'attentat, il se débarrasse de quelque chose. Il y a une œuvre qui est jetée comme ça, alors que celle-là, on se dit oui, c'est encore un pas supplémentaire à mon sens.
Oui, d'autant plus. Alors, il faut préciser que dans ce texte, Albert Cohen, lui est un peu plus jeune que Cohen quand il a écrit ce texte, mais disons qu'ils sont dans une même temporalité dans le parcours d'une vie, parce que dans ce texte, c'est un aller-retour entre un vieil homme qui écrirait ce souvenir lointain et le jeune garçon, et c'est ce qu'on retrouve aussi tout au long des pages de ce livre de Luz, ces allers-retours entre le petit garçon qui est essentiellement présent dans les pages, mais et le vieillard, et la façon dont ils peuvent se confondre, se répondre, cohabiter dans la même image parfois, de part et d'autre d'une cloison de salle de bain.
C'est vraiment une invention de bande dessinée, j'ai l'impression.
Non, mais bien sûr.
Que de faire cohabiter les différentes facettes du personnage et d'arriver à les décliner, c'est-à-dire de parfois de prendre le temps d'une page où le petit garçon est comme ça répété une dizaine de fois, et puis tout à coup on voit le vieux apparaître. Enfin voilà, c'est vraiment de là. On est au cœur de la bande dessinée, avec en même temps une liberté formelle assez folle, hein, puisque il y a pas vraiment de cases, c'est muet très longtemps. Le texte à la fin, quand il apparaît, il est comme placardisé. Voilà, c'est assez bouleversant. Et moi j'ai eu l'impression, en le lisant aussi, qu'on dépasse aussi le cadre de ça ne parle que d'antisémitisme. C'est totalement universel. C'est aussi l'histoire d'un petit garçon qui est simplement confronté à la haine, et avec aussi ce recul du vieil homme qu'il devient sur son enfance. Donc c'est plein de strates et de choses.
C'est vers quoi j'allais dans ce que je voulais exprimer, c'est-à-dire qu'effectivement, à la limite, le texte de départ d'Albert Cohen, bon, alors certes, on va le retrouver à la toute fin du livre, mais il est un point de départ sur ce qui se passe entre le vieil homme et l'enfant, si je puis dire, et sur l'innocence perdue, et sur un trauma fondateur qui va comme ça inscrire une cicatrice dans l'esprit de celui qui vit ce trauma. Et c'est vrai que la question de l'antisémitisme, bien sûr, c'est de ça qu'il s'agit au départ, mais que c'est la constitution de soi, c'est l'identité, c'est accepter qui on est, y compris au regard des autres, et s'en affranchir, enfin, comment grandir dans ce contexte-là. Ça concerne la majorité, l'immense majorité des gens.
Ça décrit aussi très finement les mécanismes psychologiques qui sont ceux de à la fois de la haine et du sentiment qu'on a quand on y est confronté. C'est-à-dire que les mots salissent et les mots sont sales, c'est-à-dire comme une tache qui va vous maculer, vous ensevelir, vous menacer de partout. Et en même temps, les mécanismes psychologiques qu'on peut avoir en défense à ça, c'est-à-dire soit se sentir complètement perdu, isolé, soit retourner la haine elle-même, c'est-à-dire qu'il y a ces moments où le gamin lui-même va dire sale juif aux autres, à un chien, à lui, à des personnes, tous ces mécanismes qui changent sans arrêt, c'est d'une finesse et d'une justesse incroyable. Mais effectivement, la façon graphique de représenter le mécanisme du souvenir, c'est-à-dire que Albert Cohen, tel qu'il est dessiné au début, ce vieil homme est beaucoup plus vieux qu'au moment où il a écrit ce livre, mais a ce sentiment de vieillesse, de solitude dans son petit appartement, dans une tour de banlieue, et avec ce sentiment effectivement de la résurgence éternelle de ces questions. Là, de cette haine-là, et la manière, par exemple, dont au début, confronté à une page blanche, il va froisser cette page, et les plis du papier défroissés vont lui donner son visage, qu'il va après effacer en se tenant la main, le visage va devenir lui-même une page blanche, d'où surgit l'enfant. Effectivement, tous ces mécanismes de projection de souvenirs trouvent toujours un équivalent graphique. Et il est très rare dans la bande dessinée, mais en général, on pourrait faire le même problème au cinéma, où beaucoup de gens font de l'adaptation littéraire, théâtrale, en étant extrêmement bavard et en ne trouvant pas les solutions propres au médium pour l'exprimer. Chez Luz, c'est comme ça en permanence. Il y a toujours... Chaque page a au moins une idée formidable qui fait évoluer le médium. Donc c'est un livre. Vraiment, j'étais surpris que Luz, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, ait atteint ce niveau, même pas de maîtrise, c'est-à-dire d'inventivité, de remise en perspective. Alors je crois que ça tient beaucoup aussi à son projet en cours pour lequel il ne peut pas avancer parce que Stephen King lui a toujours pas répondu, d'adapter Shining en bande dessinée, qui correspond lui aussi à des mécanismes de cauchemar, d'enfermement, labyrinthique, etc.
L'enfance aussi.
De l'enfant confronté justement au mal, avec un grand M. Je pense que graphiquement, on verra ce que ça donne si un jour on voit ce livre, mais certainement que certaines des expériences qu'il a menées pour Shining trouvent ici leur application de manière très saisissante.
Oui, mais c'est comme McGuire dont on parlait l'an dernier. Moi, ce qui me plaît beaucoup, ce que je trouve admirable, c'est que ce livre ne peut être qu'un livre de bande dessinée. Il est absolument l'essence même de son art, parce que son mode d'expression, c'est vraiment le dessin dans la page, les planches qui se succèdent, la narration, elle est à l'aide de... Voilà, alors, bien sûr qu'il y a des mots, et d'ailleurs, Joseph, vous aviez une page là à l'instant, juste après, sur la ville, où tous les bâtiments, les lieux sont...
Reflètent
les mots. Juif, partout. Hein, ce sont des fenêtres, des colonnes, des lampadaires, les mots est inscrit partout. Alors oui, il y a un usage des mots ou de l'écriture, mais qui est vraiment, c'est ce que disait Antoine tout à l'heure, la dimension est graphique, même si les mots portent leur sens ici, Joseph.
C'est comme chaque page pourrait quasiment tenir toute seule parfois, mais c'est vrai que l'ensemble est extrêmement séquencé et on voit bien cette évolution. Il y a pas vraiment de digression, mais c'est vrai que on suit ce petit bonhomme, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il est confronté à ça, à ce mot juif, on est sidéré avec lui.
De contraction et de décontraction, ouais. C'est presque les systoles et extrasystoles, c'est-à-dire des moments d'extrême tension et des moments où ça se relâche, et parce que ça va se retendre après. Il y a un rythme vraiment organique dans ce livre qui ne vous lâche pas, quoi.
Même le dessin évolue, c'est-à-dire on parlait de Will Eisner, mais à mon sens l'influence de Eisner, elle est présente au début, et puis tout à coup ça se relâche, ça devient autre chose, son trait se libère, puis d'un coup ça devient plus noir, plus précis, et puis ça va ailleurs. C'est vraiment surprenant comme nouvelle étape et nouvelle évolution chez ce dessinateur.
Et du coup, comment vous avez vécu dans votre lecture l'apparition du texte, hein, qui est effectivement est là, très présent, de l'écriture de Luz, enfin Je sais pas, c'est lui qui, j'imagine, qui fait son lettrage et donc ces pages manuscrites.
C'est important parce que justement, c'est lui qui le fait.
J'imagine bien.
Et donc, il y a une continuité, effectivement, par ces blocs de textes qui eux-mêmes sont des mouvements extrêmement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a de la scansion, il y a presque de l'incantation dedans puisque les mêmes mots reviennent. Donc, on est pris à la fois dans un rythme, mais ces blocs de textes sont mis en vis-à-vis de pages qui elles-mêmes sont tout à fait bouleversantes, qui, à partir de la solitude d'un enfant dans les toilettes, allongé sur le sol, complètement tétanisé, quasi mort à cause de ce qui s'est passé, va se multiplier, puis partir dans l'évanescence et la disparition jusqu'à des regards. Et là, c'est des regards qui tout d'un coup, c'est le luz de catharsis qu'on retrouve. C'est-à-dire cette répétition du regard fantomatique qui vous fixe. Et quand on lit le texte à côté d'Albert Cohen, qui raconte comment effectivement cette haine d'un camelot en 1905 et de tous ceux qui l'exprimaient d'eux-mêmes dans le monde entier, et particulièrement en Allemagne et en France, a abouti au corps des camps de la mort, et la façon dont lui le décrit, dont Albert Cohen dit très précisément l'état de ces corps, où ils allaient, qu'est-ce qui leur arrivait. Effectivement, si on avait à peu près survécu mentalement dans ce qu'on a lu avant, là on est achevé, mais de manière extraordinaire, c'est-à-dire de ressentir ces émotions-là en lisant un livre de quelque nature que ce soit, c'est quand même extrêmement rare.
Ouais. Mais je crois que L'arrivée finale du texte, pour moi, elle marque deux choses. D'abord, une vraie trouvaille rythmique et dynamique dans la façon de mettre en scène. Et Antoine Guillot a tout dit. Mais ça parle aussi d'autre chose. C'est-à-dire, ça parle aussi du moment dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire par rapport justement à ces premières adaptations de textes comme ça, de grands textes par Tardy, justement, où on était dans le respect du texte, les images qui allaient au-dessus du texte ou à côté, tout était très très cadré. Aujourd'hui, on voit bien que un auteur comme Luz prend le texte comme une matière première et s'en sert parce que le texte lui raconte sans doute quelque chose sur ce qu'il vit lui-même aujourd'hui et que cette matière-là elle sert à dire regardez ce qui s'est passé, regardez ce qui est en train de se passer, et à partir de là je peux aussi élaborer quelque chose qui va au-delà du respect du texte et ça c'est très intéressant pour l'état même de la bande dessinée. C'est-à-dire, on voit bien qu'il n'y a plus de hiérarchie, en tout cas il n'y a plus de texte à vraiment respecter, et que le dessin est là pour faire exploser ces territoires-là.
Et puis le désir, je pense quand même pour Luz aussi, de faire entendre ou de faire lire vraiment la langue d'Albert Cohen, et puis d'avoir ces mots-là qui nous disent, alors parce que c'est quand même ça aussi sur quoi ça conclut, on va peut-être pas s'aimer, on vous demande pas de vous aimer les uns les autres, mais si vous pouviez ne pas vous haïr, ce serait quand même déjà pas mal. Et ça, c'est par les mots vraiment d'Albert Cohen que ce message-là, qui est un message fort, clair et précis, peut passer quand même aussi.
Ouais, surtout que Luz raconte que ce texte d'Albert Cohen, lui, il l'a découvert très jeune, il l'a découvert à 15 ans, et lisant ce monument, était persuadé que c'était une évidence, tout le monde l'avait lu. Et puis il s'est rendu compte très vite que personne ne lit ce texte. Donc il y a aussi, je pense, en voulant revenir au texte, de dire, voilà, moi, ce livre vient de là, ce que dit Cohen est très important, lisez-le.
Ouais. Et c'est la meilleure mise en scène du texte, finalement, c'est-à-dire que d'un coup, on voit le texte, et alors que dans d'autres... Voilà.
Bon, ben voilà. Oh, vous, frères humains de Luz, d'après l'œuvre donc d'Albert Cohen, est publié chez Futuropolis.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Nous parlerons tout à l'heure de Mr. Morgan Digger Hofbauer. Avant cela, nous retrouverons l'invité de la dispute, la plasticienne Orlan, et nous évoquerons aussi plus rapidement L'homme qui tua Lucky Luke de Mathieu Bonhomme. Le bonhomme de la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute, c'est Antoine Guillot. C'est à vous, cher Antoine.
Merci Arnaud Laporte, et je vais essayer de la dire un peu moins vite que mon ombre. Dispute bande dessinée oblige, on va quand même parler un peu encore du Festival d'Angoulême. La ministre de la Culture a confié à Jacques Renard, énarque de 67 ans, le rôle de médiateur entre les professionnels impliqués dans le Festival de la bande dessinée d'Angoulême. Nous apprend une brève du Monde des Livres. Auteurs et éditeurs menacés en effet de boycotter l'édition 2007 après la polémique soulevée notamment par l'absence de femmes parmi les auteurs en lice pour le Grand Prix, tandis que le maire Xavier Bonnefond projetait, en cas de statu quo, de diminuer les subventions accordées à la manifestation phare du 9e art. La première tâche du médiateur pourrait être d'envoyer les organisateurs du festival à Londres, à la House of Illustration, où l'exposition Comics Creatrix rend hommage jusqu'au 15 mai aux dessinatrices du monde entier. Et oui, les femmes auteurs de bandes dessinées, on les a retrouvées, se réjouit la correspondante à Londres de Libération, Sonia Dolsal-Stolper. Elles sont là, excentriques, folles, dingues ou graves. Sur les murs feutrés du musée, elles jettent leurs douleurs, leurs questions, leurs rires et leurs fantasmes. Elles racontent des histoires, des instants, des moments. Elles sont là, ces femmes, ces fameuses femmes, invisibles pour certains, et pourtant si vivantes, armées de leurs crayons et de leurs idées. Elles sont 100, mais elles pourraient être 1000. Un instant, on s'interroge, les organisateurs de Comics Creatrix l'ont-ils fait exprès? Mais non, l'exposition a été conçue, imaginée bien avant les polémiques qui ont secoué le festival d'Angoulême avec sa liste de 30 nommés pour le Grand Prix, qui étaient au départ tous des hommes, mais hasard pertinent, elle prend du coup un sens particulièrement aigu. Comics Creatrix s'est ouvert 5 jours à peine après la fin du festival, comme un parfait contre-pied ou un joli pied de nez. La House of Illustration, délicieux musée fondé à Londres en 2014 par Quentin Blake, a choisi d'exposer 100 auteurs de bandes dessinées qui, au fil des années, des époques, ont créé certaines des œuvres les plus abouties et provocantes de ce médium. À l'entrée, les conservateurs du lieu, Olivia Hamad et Paul Gravette, ont inséré un petit panneau cinglant, visiblement rédigé juste avant l'ouverture. Au fil des développements de la bande dessinée, les créatrix ou femmes créatrices ont été actives, même si leur contribution vitale a souvent été négligée. Cette année, le directeur du prestigieux Festival français de bande dessinée d'Angoulême a déclaré « Malheureusement, il y a peu de femmes dans l'histoire de l'art de la bande dessinée, c'est une réalité ». Comics Creatrix démonte le mythe selon lequel les femmes ont eu un impact limité dans le monde de la bande dessinée en présentant le travail de 100 femmes innovatrices britanniques et internationales. Elles viennent de 23 pays, Royaume-Uni, France, Chine, États-Unis et même Népal, et vivaient au XVIIIe siècle, dans les années 60 et 70, où s'épanouissent aujourd'hui. Elles racontent leurs histoires et en filigrane celles de l'évolution de l'illustration, de la satire à la caricature, du dessin de presse à la bande dessinée, puis au roman graphique. L'exposition la plus large du genre jamais organisée au Royaume-Uni se concentre essentiellement sur des auteurs actuels, bien avant les déclarations du directeur du festival d'Angoulême. Les femmes auteurs de bandes dessinées n'ont pas toujours été reconnues. En témoigne ainsi l'américaine June Tarpe Mills, 1915-1988. Elle créa en 1941 une super-héroïne, Miss Fury, qui combattait tous les méchants de la Terre, dont de vilains nazis, mais elle signait son œuvre en omettant délibérément son prénom, parce que cela aurait été une déception terrible pour les enfants de réaliser que l'auteur de personnages si virils et puissants était une fille. Depuis, les choses ont bien changé et aujourd'hui, les auteurs de comics n'hésitent pas à s'afficher, comme Amanda Conner et Kelly Sue DeConnick, rencontrées par Pascaline Potvin de Grazia en octobre dernier au salon Comic-Con à Paris. La première dessine depuis 2014 les aventures de Harley Quinn, l'amoureuse folle dingue du Joker, créée par la maison d'édition DC Comics, un personnage si populaire qu'en 2016, Harley sera incarnée au cinéma par Margot Robbie dans le très attendu Suicide Squad, sorte de version dark des Avengers, et qui a bien changé depuis qu'Amanda Conner et son mari, le scénariste Jimmy Palmiotti, ont décidé de lui insuffler une vraie personnalité. La première chose que l'on a faite, c'est la tirer de sa relation abusive avec le Joker, explique Palmiotti. Nous voulions qu'elle existe par elle-même et non comme un personnage secondaire. Désormais, elle vit à Brooklyn, travaille, fait ses courses, nourrit ses chats. Les gens s'identifient à elle, c'est pour ça qu'elle est devenue si populaire. Battante, utilisant leur pouvoir pour terrasser aussi bien leurs adversaires que ceux qui s'avisent de les appeler bébés, les super-héroïnes sortent de leur rôle de faire-valoir. Certes, elles ont toujours existé, mais si Wonder Woman, née en 1941, était ouvertement féministe, Power Girl, apparue en 1976, restait une cousine de Superman à la poitrine imposante, un signe particulier que Conner et Palmiotti, qui imaginent également ses aventures, se sont réappropriés. Nous nous sommes demandé si nous devions lui dessiner des seins plus petits, admet Amanda, mais tout le monde n'aurait parlé que de ça. Alors on a plutôt travaillé sur sa personnalité, celle d'une femme qui assume son corps, n'a pas à le cacher. Preuve indubitable que ça commence à prendre à Halloween cette année. On a vu des garçons se déguiser en Harley Quinn, inventant ainsi la version masculine de leur héroïne préférée. Nous sommes tous des super-héroïnes.
Vous avez vu qu'il y était les Françaises dans cette exposition de Creatrix ? Messieurs, non,
pas du tout.
Non, j'y suis pas allé. Mais
faut aller consulter ça sur Internet. Quand
enfin, il y en a quand même beaucoup des Françaises.
Non, mais il y en a, mais savoir desquelles ont été choisies, c'est ça qui m'intéresse. On ira regarder. Voilà, je veux un complément d'information.
C'est plutôt ces garçons qui se déguisent en super-héroïnes qui m'intéressent. Parce que il y a un vrai changement de genre. Et ça, c'est assez notable, en tout cas. Voilà.
Réjouissant.
Réjouissant.
Bon, est-ce que vous connaissez Jacques Renard, le médiateur nommé par le ministère?
C'est un ancien membre du cabinet de Jack Lang, qui avait beaucoup suivi la création justement de la cité de la bande dessinée à Angoulême. Donc ils ont eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui connaisse la bande dessinée et qui soit pas déjà impliqué pour un camp ou pour un autre. Donc ils ont trouvé ce Jacques Renard qui est grand serviteur de l'État et qui connaît la bande dessinée. Donc on peut espérer que ça calme un peu le jeu.
Bon, Joseph.
Pas de commentaires spécial.
Mais je connais beaucoup de gens qui ont été approchés et qui ont refusé.
Le terrain est miné, quoi, c'est ça?
Oui.
Bon.
C'est un milieu c'est pas facile, d'autant qu'effectivement le maire d'Angoulême est en train de sabrer toutes les subventions, que l'école d'art d'Angoulême, qui est donc à la fois école d'art et de bande dessinée, est menacée dans son existence même parce qu'on est en train de couper les subventions. Donc c'est quand même un terrain très marécageux sur les bords de la Charente.
Non, c'est très triste, cette école d'art qui fait beaucoup depuis très longtemps, bande dessinée et films d'animation. Enfin, moi je me souviens de cela il y a très longtemps, mais pour y avoir été aussi. Bon, alors restons dans les immortels, ou presque, aussi quand même. L'homme qui tua Lucky Luke, c'est un album de Mathieu Bonhomme paru chez Dargo. Il faut expliquer le contexte, Joseph Gosne, de cette collection. Enfin, je sais pas si c'est une collection au sens strict, mais enfin, cette proposition revisiter des grandes figures.
Il y a depuis quelques années, en tout cas, des auteurs plutôt de nouvelle génération, enfin, en tout cas, de génération plus récente, qui revisitent certaines figures. On a vu des Spirou, il y a notamment je l'ai pas encore lu, mais un Mickey, enfin, des personnages de Walt Disney qui ont été refaits récemment, etc., par Trondheim.
Trondheim et Keramida, c'est causé la reprise, c'est pas mal du tout, d'ailleurs.
On a l'impression qu'il y a après une génération qui s'était totalement désinvestie de ces figures-là, de ces personnages-là, l'impression qu'ils reviennent, qu'ils ont envie de s'y confronter, parce qu'au fond, ils ont sans doute grandi avec. Et c'est vrai que moi, ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu Lucky Luke. Quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, tiens, ça a l'air intriguant. Je l'ai lu, je m'y suis plongé, ça m'a assez fasciné, en fait. D'abord parce que il y a un projet qui est déjà de donner la parole à Lucky Luke. On l'entend un peu, alors que dans mon souvenir, Lucky Luke est un personnage qui n'avait pas grand chose à dire, en tout cas qui parlait pas énormément. Donc il y a quelque chose comme ça, il est un peu plus humanisé. Un tout petit peu. Et puis il y a aussi ce projet qui pour le coup est pas franchement très moderne, mais qui me rappelle les premiers Blueberry, qui est en fait de reprendre des scénarios de western américain, puisque là l'homme qui tue Lucky Luke, c'est l'homme qui tue Liberty Valance, mais mixé avec Règlement de compte avec Corral, plein d'autres westerns des années 50 ou 60, et de les remixer et d'en faire quelque chose. Donc il y a du coup un travail à la fois sur la mémoire de ces westerns là, la mémoire du personnage, un travail aussi sur la ligne où d'un coup on se rend compte que Lucky Luke est une ligne un tout petit peu plus claire que dans le souvenir. Donc c'est le livre se lit très très vite, très facilement, et fait travailler pas mal de choses. Donc c'est pour ça que ça m'a intrigué, ça m'a bien plu. Je me dis, tiens, c'est une tentative de modernisation qui passe par la nostalgie et qui est plutôt agréable.
Et cet auteur, Mathieu Bonhomme, en dehors de cet album-là, Lucky Luke, Antoine Guillaume.
Mathieu Bonhomme, c'est un dessinateur extrêmement intéressant dans le style, on dira, semi-réaliste, dont il est sans doute un des meilleurs représentants. Il fait une série chez Dupuis qui s'appelle Esteban, qui raconte l'histoire d'un indien de Patagonie, voilà, qui se retrouve sur un bateau de chasseurs de baleines, et c'est une très bonne série. Et puis il avait fait deux livres avec Lewis Trondheim qui s'appelait Dallas Cowboy, qui était déjà une revisitation du western de manière très éclatée, qui était présentée au départ sous forme de petits fascicules un peu pulps, comme on racontait le western au début. Et puis enfin, c'est quelqu'un qui est là dans le métier depuis longtemps, mais qui retourne un peu effectivement à un amour d'enfance. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a toujours voulu faire du western mais qui osait pas parce que qu'il a appris le métier auprès de gens comme Christian Rossi et donc de Giraud et donc de Jigé, c'est toute cette généalogie de grands dessinateurs de western. Et on observe actuellement, effectivement, un retour du western, voir le livre de Louis Fang et Frédéric Peters, L'odeur des garçons affamés, qui est sorti en même temps que Lucky Luke. Et effectivement, Mathieu Bonhomme retourne presque aux origines de Lucky Luke, c'est-à-dire que ce livre sort dans un contexte où on est en train de redécouvrir Maurice grâce à l'exposition qui a eu lieu à Angoulême et au catalogue qui est sorti, qui est sans doute la première étude sérieuse qui pose les bases d'une étude de l'art de Maurice. Il doit y avoir des centaines et des centaines de livres sur Hergé, mais sur Maurice, il en existait 3 ou 4 dont la plupart étaient épuisés. Donc on est en train de se rendre compte que derrière les Lucky Luke à la chaîne qui continuent de se produire maintenant, au départ il y avait un grand auteur et très innovateur et qui avait fait l'alliance un peu du style français, du style américain après l'avoir découvert dans les années 50 chez Mad Magazine. Et là où il retourne à l'origine de Lucky Luke, c'est que dans les premiers Lucky Luke était un cow-boy à la Gary Cooper, qui était le modèle du personnage qui tuait, qui se battait, qui n'était pas le gentil avec la paille à la bouche qu'on voit sur la suite. Et alors ce livre justement raconte pourquoi et comment, hors raison marketing qui fait qu'il fallait imposer le personnage de Lucky Luke sur le marché américain dans les dessins animés, donc il ne pouvait pas fumer, pourquoi Lucky Luke s'est arrêté de fumer. Et ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'il nous montre un Lucky Luke qui n'est pas très sympathique forcément, qui passe beaucoup de temps à froncer les sourcils, à être de mauvaise humeur simplement parce qu'il est en manque de tabac, mais qu'en même temps tout le monde l'énerve. C'est un Lucky Luke qui arrive précédé de sa légende. Donc on est effectivement à l'époque dans le western, quelqu'un qui était considéré comme un fameux tireur, il savait qu'il finirait toujours par rencontrer sa mort parce que tout le monde voudrait se mesurer à lui, et finalement dans les westerns on finissait plutôt par se tirer dans le dos que par se faire des duels tels qu'on les voit dans les films. Donc il peut pas faire un mouvement sans que tous les enfants lui courent après en disant alors qu'est-ce que tu vas faire. Il doit être à la fois à la hauteur de sa légende, et il se pose une grande question du western moderne qui est: comment arrêter le cycle de la violence? Et c'est ce qui, moi, me touche beaucoup et qui est sans doute la modernité de ce livre, c'est qu'à un moment, il suffit pas d'être le meilleur tireur, il faut qu'on arrête de se battre. Et ça, il le raconte très bien. Alors qu'au début, on est dans l'arrivée, son arrivée est formidable. Le début, arrivé sous la pluie d'un cow-boy solitaire dont on ne voit pas le visage. C'est Pell Rider qui arrive dans la pluie de la fin d'Impitoyable, quoi. Il y a une mise en scène qui est très forte. Et puis, dès qu'il dit, comment vous appelez-vous? Luke. Là, tout le monde s'écrase et on retrouve ce qui était très, très fort dans les Lucky Luke de Goscinny et Maurice, c'est la veulerie générale des braves gens, c'est-à-dire tout ce petit peuple formidablement décrit par Maurice, le croque-mort, l'épicier, le old-timer, etc. Tous ces personnages-là, même l'Indien mystérieux à chapeau, mais tout ça est une veulerie, d'une lâcheté sans nom, et la possibilité effectivement que le bien et que la loi adviennent est là, donc on est vraiment dans du pur western.
Il y a aussi l'idée de la légende qui précède, c'est aussi une métaphore de ce que c'est ce livre, hein, et de ce que sont tous ces personnages. C'est-à-dire que d'un coup, aujourd'hui, se confronter à des personnages comme ceux-là, un auteur est forcément confronté d'abord à la légende, à ce qui a été fait avant, etc. Et donc, je trouve que le fait de prendre le personnage et de le malmener, au lieu de dire tiens, on va raconter une histoire parallèle, etc., mais vraiment de le malmener, de le présenter sous un jour un peu comme ça, un peu de mauvais héros, c'est plutôt une bonne idée, c'est plutôt une vraie réussite. C'est-à-dire que d'un coup, on se dit je comprends ce qu'était ce personnage que j'ai lu quand j'étais gamin, et je le comprends un peu mieux finalement.
Et il retient notamment, si je peux encore deux éléments clés justement de l'art de Maurice que met très bien en évidence à la fois l'exposition et le catalogue qui va avec. C'est un, la représentation du mouvement, c'est-à-dire que contrairement à Franquin où ça part dans tous les sens, on a le sentiment que ça foisonne, Maurice fixe le mouvement à son moment d'apogée. C'est très frappant sur un cheval qui galope chez Maurice, et donc de même chez Mathieu Bonhomme, le cheval est soit en extension, soit les membres ramassés sous le ventre, et ça donne effectivement ce moment où le mouvement se suspend et où ça repart. Et puis l'utilisation des couleurs, qui était la grande innovation de Maurice, ces cases monochromes dont on se souvient tous, toutes vertes, toutes rouges, etc., qui n'avaient rien à voir avec une représentation illustratrice ou réaliste. Mathieu Bonhomme l'utilise très bien, à la fois pour différencier les plans et puis pour donner aussi l'humeur d'une scène. Donc effectivement, quand Lucky Luke s'énerve, tout devient rouge. Quand une femme arrive, tout d'un coup, le rose et le violet envahit l'image. Et ça choque pas du tout. C'est-à-dire que ce qui pourrait être une affirmation pop art très surprenante, on est tellement habitué, effectivement, grâce à Maurice, à cette utilisation du code émotif de la couleur, que ça passe tout seul. Mais vraiment, Bonhomme fait ça avec un grand talent. Quoi.
Mathieu Bonhomme chez Dargaud, l'homme qui tue à Lucky Luke. À propos de couleurs, Joseph, vous êtes venu avec de gros pavés noirs. Vous pouvez plus vous déplacer sans pouvoir en dire quelques mots. Ça m'intrigue.
C'est le Club des divorcés. C'est les deux tomes de c'est une série de Kazuo Kamimura, un auteur japonais qui est décédé. C'est une série qui date des années 70. Et j'aime beaucoup cet auteur dont plusieurs livres ont déjà été publiés. Lady Snowblood, qui est une bande dessinée de sabre, mais aussi des choses beaucoup plus intimistes. Et là, c'est vraiment un récit. Ce sont plusieurs petits récits qui tournent tous autour de cette idée d'un personnage de femme divorcée qui tient une boîte, un club qui s'appelle le Club des divorcés. Et ce sont toutes ces histoires à elle dans ce Japon des années 70, des histoires amoureuses, des histoires de fiancés qui reviennent, qui repartent. Mais c'est aussi beaucoup autour de la solitude, de comment on vit quand on est une femme à ce moment-là, avec un enfant qui n'est pas forcément avec soi. C'est à la fois très très beau, très poignant, c'est très mélancolique aussi souvent. Et c'est vraiment une des très grandes découvertes. À la fois Kamimura, c'est un auteur dont j'ai beaucoup apprécié les lectures précédentes, mais ça c'est vraiment c'est très très poignant, et le dessin surtout, sa manière de représenter très 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 aérée, très aérienne, avec des mises en scène, notamment le début du premier tome, c'est un vrai chef-d'œuvre, à la fois dans la façon dont on rentre dans ce club, dont on voit les personnages, etc. C'est une des très très grandes lectures de cette année.
Divorcé, publié chez
Sensei Kana.
Très bien, voilà, pour quand même, ça, vous n'êtes pas venu avec ces gros ouvrages pour rien, parce que je vais les regarder aussi un petit peu, je vais quand même en profiter. Dans quelques minutes, on va parler de Mr. Morgan. Avant cela, on va retrouver l'invité de la dispute, la plasticienne Orlan, dont on peut retrouver l'actualité sur le site franceculture.fr à la page de l'invité de la dispute.
Comment allez-vous? Très bien, merci.
Orlan et les livres, chapitre 5 et dernier de cette semaine en votre compagnie. Les livres, alors il y a ceux qui sont sur vous, bien sûr, mais il y a ceux qui vous accompagnent, ceux qui vous nourrissent. Est-ce que vous êtes une butineuse, une dévoreuse, une compulsive dans ce domaine-là, Orlan?
Alors j'ai vraiment été une dévoreuse. J'ai lu énormément, énormément, énormément. Et là, pour le moment, c'est vrai que ma manière de lire est très, très différente, parce que en fait, il y a trop de livres que j'achète, qu'on me donne. J'ai plus d'étagères pour les mettre, et en fait, je supporte mal l'idée de ne pas les lire. Donc, je les ouvre et j'en ouvre plusieurs à la fois, souvent. Pour le moment, par exemple, je relis La liberté d'offenser, oui, de Ruven Ogier, mais c'est quelque chose que j'ai lu. Vous voyez, il y a plein de petits scotch.
Marque-pages.
Ouais. Et j'essaye aussi de relire, en fait, de lire un livre qui m'a été donné par Donatien Gros, qui est Tout contre Sainte-Beuve, qui est un pavé. Mais Donatien Gros a écrit un texte magnifique pour le catalogue, justement, qui servira pour le FRAC, mais qui a servi aussi pour mon exposition en Guin, pour mon exposition à Bolit, en Espagne, à Girona. Donc, comme son texte m'a tellement intéressé, j'ai vraiment voulu essayer de me plonger dans Sainte-Beuve. Et c'est bien sûr pas ma spécialité, donc c'est un peu troublant et difficile, mais on va y arriver. Mais il faut s'accrocher, il y a des livres auxquels il faut s'accrocher, et puis d'autres qui se lisent en une nuit. Par exemple, j'ai lu dernièrement « Courir » d'Echnoz, et je n'ai absolument pas pu le fermer.
Alors le dernier, je vous recommande, alors il est beaucoup plus gros, mais vous allez être passionné, mais entre deux, là il vous faut une heure ou deux, à peine 14, très court roman, immense, de Jean Echnoz, dont je suis un des très très grands fans, mais on est nombreux, heureusement,
oui,
à reconnaître
oui.
L'œuvre de cet immense écrivain.
Oui, j'avais même imaginé lui demander d'écrire quelque chose sur ma vie, en fait, sur mon histoire.
Ah.
On ne sait jamais. Ah, mais
pourquoi pas.
Mais, oui, mais j'ai pas l'entrée encore.
Bon, on va travailler sur la connexion. Et puis, vous aviez encore un autre livre avec vous.
Oui, j'en ai d'autres, en fait, autour de mon lit. Mais là, c'est effectivement, moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est biologie, scientifique. Et je pense que c'est là où, en tout cas, on peut aller puiser ailleurs et quelque chose qui fait nous met en perspective en tant qu'humains et nous parle du corps d'une autre manière que par rapport aux apparences, puisque là, on ne peut plus être regardé à l'œil nu, qu'il faut que l'œil soit équipé pour que l'œil soit non nu pour voir voir. Et là, je suis en train de faire une performance qui aura lieu au Bain numérique à Enghien, où justement je parle beaucoup de ce qui nous habite. Donc on est des véhicules pour des milliards de microbes, de bactéries, et donc c'est tout ce qui est en fait dans l'analyse, dans l'identité, qui tourne autour de l'identité, comme on peut tourner autour de l'identité avec des images. Mais là, c'est à fait, je vais faire toutes les analyses possibles qui soient possibles de faire et recueillir sur mon corps, les images et les vidéos. Et avec ça, je vais fabriquer un spectacle en collaboration avec Maëlle Lemay. Donc, je lis beaucoup sur le bio-art, parce que j'ai travaillé aussi, j'ai cultivé mes cellules, et j'ai fait des œuvres et des installations avec cette culture de mes propres cellules. J'ai fait des vidéos, j'ai fait énormément de choses avec ces cellules, j'ai fait un film, etc. Et donc, voilà, je m'intéresse beaucoup à ça, comme aussi j'ai fait mon propre crâne. Presque tous les artistes ont travaillé sur des crânes génériques, alors que moi, j'ai mon vrai crâne. À partir de scans médicaux, j'ai fait fabriquer avec l'aide des Sismo, on a collaboré, un crâne en 3D printing, qui est un crâne donc avec une identité, mon vrai crâne. D'ailleurs, on voit que je suis hybridé avec un bœuf. Oui, on voit pas ses cornes, mais on voit dans la mâchoire que la matière est différente. Parce qu'effectivement, mon dentiste m'a mis des greffes et m'a demandé, est-ce que tu veux des greffes de tes propres os ou est-ce que tu veux des greffes de bœuf? Et vous voyez, c'est très difficile de vouloir travailler sur ce qui se passe actuellement. En fait, la plupart du temps, on n'a pas les informations. Par exemple, l'hybridation avec un bœuf, peut-être vous êtes hybridé avec un bœuf sans le savoir, possible, parce qu'on ne vous a pas posé la question. Donc, il y a des techniques actuelles qui sont complètement normales et avec lesquelles on n'est pas habitué. Je pense qu'on a des idées dans la tête qui sont toujours de 50 ans, 100 ans en arrière, quand c'est pas pire, quoi.
Et là, BioArt, ce grand livre?
Oui, ce BioArt, en fait, c'est Tamé Hudson qui a sorti ce livre avec des artistes qui sont dans le BioArt. Ils sont pas tous là, mais il y en a quelques-uns. Et donc, j'essaye de voir ce qui a été fait pour ne pas faire quelque chose qui aurait déjà été fait, pour ne pas redire quelque chose, et puis voir, moi, ce que je peux apporter de différent, autrement, ou penser à partir de cela, quoi, voilà. Et c'est vrai que je m'intéresse beaucoup au numérique, aux nouvelles technologies, etc., et que j'ai fait, par exemple, un livre où toutes les pages sont interactives. Il suffit d'avoir le logiciel Augmente, de scanner, et on peut me voir surgir en avatar 3D, en train de jongler avec les masques de l'Opéra de Pékin. Et pour moi, ça, c'était important parce que j'aime bien utiliser les nouvelles technologies, mais qu'elles soient le bio-art ou autre. Ce que j'aime pas, c'est quand c'est gadget ou qu'on montre juste que la machine marche. Ce que je veux, c'est que ce soit vraiment intégré à mon œuvre. Voilà.
Nous poursuivons cette dispute consacrée le vendredi soir à la littérature et ce soir à la bande dessinée. Et en l'occurrence, nous intéressons au premier livre publié en France de l'auteur croate Igor Hofbauer, Mr. Morgan, traduit du croate et lettré par Johanna Marcadet-Mo. Pour une suite, on va en parler de courts récits dans un monde où on n'a pas vraiment envie de vivre.
Odavno već nisam mislio o tebi. Među nama dani i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih. Da se učer nismo vidjeli nas dvoje. Stigao sam kasno, stajao na cesti i slučajno tebe
gledao tada, ni slutili nismo da ćemo se sresti pod svjetlima ovog bezimenog grada. Pričaš mi o svemu.
Vous écoutez l'Eurovision, la dispute ce soir. Antoine Guillot va nous donner juste la référence musicale avant que je donne la parole à Joseph Gosselin.
Alors c'est une chanson, vous, je ne vous donnerai pas le titre en croate, mais...
Ostalasi uvijek ista.
Uvijek ista, qui veut dire, comme tous les serbo-croates le savent, tu n'as jamais changé, c'est de Mišo Kovač. Il faut le dire que cette scène est écoutée par un homme qui a un costume de militaire, donc on peut supposer que c'en est un, et qui va sortir un homme d'une baignoire pour l'attirer jusqu'à une plaque électrique chauffante. Lui disant ça brûle. Hein.
Bon, Joseph Gosselin, alors vous voulez vous faire des cauchemars là.
Ce livre est vraiment tout à l'inverse de la musique qu'on vient d'entendre. c'est son exact opposé.
D'où le contraste évidemment. Je choisi par l'auteur.
Un vrai contraste. Ça m'a touché quand dès que j'ai reçu le livre, j'ai commencé à m'y plonger, à la fois par son esthétique, c'est du noir et blanc avec parfois des teintes de rouge qui arrivent, du gris, etc. C'est des petites histoires, certaines un peu plus longues que d'autres, mais surtout c'est le ton très comment dire, pessimiste, fataliste, violent, Decati. On est dans un univers totalement dystopique. Il y a des choses, c'est tendu et violent, voilà. Mais en même temps, c'est assez grotesque. Donc il y a des figures qui sont comme ça, très très poussées, à la limite du grotesque. Moi en fait, en le lisant tout au long, ça m'a rappelé un peu le métal hurlant des années 80, avec cette idée de science-fiction un peu poussée dans ses retranchements. Parfois certains personnages me rappellent de manière un peu sans doute un peu plus sauvage ou brute certains personnages de Serge Clerc, voire d'un Charles Burns, avec ce même genre d'ambiance un peu limite. Une des histoires qui m'a le plus touché, intrigué et vraiment que je trouve assez forte, c'est l'histoire qui s'appelle Olympia, où on est je pense que c'est vraiment le cœur, ouais. Le cœur du livre,
avec un personnage
avec un personnage comme ça qui est enfermé dans une cage, dans un zoo, suspendu, et avec un autre personnage qui vient, qui a l'air de la nourrir, avec beaucoup de fantasmes autour. Le personnage qui est enfermé est un personnage d'une ancienne chanteuse, cantatrice. On est dans les pays de l'Est. Il y a quelque chose comme ça de vraiment très fantasmé. Il y a un autre personnage. Enfin, c'est à la fois complexe et en même temps très, ça se termine dans une scène de cannibalisme et avec en même temps des personnages un peu étranges d'un détective dont on se rend compte qu'il est le fils caché qui a été élevé par deux autres détectives homosexuels qui vivent ensemble. Ils sont tous les trois habillés de la même façon. C'est ça, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans le grotesque, la violence, et en même temps quelque chose aussi d'assez touchant qui est autour de ce personnage de ce personnage enfermé, qui est finalement la déchéance, et la déchéance de quelqu'un qui s'est cru à un moment sans doute au sommet du monde, une espèce de diva, sans doute, enfin là c'est dans un contexte de pays de l'Est, mais ça aurait pu être n'importe où ailleurs. La déchéance, c'est aussi le fait que cette déchéance est parfois aussi entretenue par d'autres, et que ben à un moment on se laisse dépasser, mais qu'on a aussi envie d'exercer la violence qu'on a nous-mêmes subie sur les autres. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là qui m'a assez fasciné, et je trouve que c'est en tout cas au moins dans cette histoire-là, c'est très bien réalisé.
Au moins dans cette histoire-là, on verra, parce qu'il y a des réserves sur les autres. Antoine Guillot, regard sur Mr. Morgan.
Mais l'histoire que vous venez de raconter, c'est évidemment celle de Sunset Boulevard. D'ailleurs, le personnage de ce qui serait l'équivalent du majordome dans Sunset Boulevard, donc une sorte de gardien de zoo qui vient de temps en temps la nourrir, et dont le visage et tous les orifices sont des sphincters, c'est très surprenant. C'est-à-dire qu'à la place des yeux, de la bouche et des oreilles, il y a des sortes d'anus sur le visage, c'est assez curieux. Le personnage s'appelle Desmond, au cas où on n'aurait pas compris la citation. Et c'est vrai que c'est un livre qui est habité par plusieurs formes cinématographiques, d'ailleurs des influences. Il y a une citation très, très précise des harmonies Werkmeister de Bellatar avec cette baleine dans une cabane dont les gens vont venir prélever des morceaux. Et c'est intéressant de le relire d'ailleurs quand on l'a lu, parce qu'en fait toutes ces histoires s'interpénètrent par des motifs. On est clairement dans un même univers et toutes ces histoires se passent à peu près en même temps, donc l'un peut passer à l'autre. Moi j'ai effectivement beaucoup pensé à Charles Burns pour le côté post-apocalyptique, les mutations, les découpes de personnages dans tous les sens du terme, y compris, j'ai pensé à Will Eisner dont on parlait tout à l'heure, parce qu'il y a une manière de mettre en page et d'utiliser des éléments graphiques qui deviennent la trame même de la page. Par exemple, un personnage qui va uriner du haut d'un pont et c'est le jet d'urine qui va former la séparation entre les images. Et le tout dessiné par quelqu'un qui vient très manifestement d'une esthétique purement pays de l'Est. On pense aux affichistes polonais, au constructivisme russe. Il y a cette scène, cette histoire vers la fin qui s'appelle Injustice, où on est dans quelque chose de presque abstrait, où des corps d'ouvriers dont les têtes sont des cubes vont s'emboîter. À la fois, les cubes se rapprochent et les sexes s'emboîtent. Le tout regardé par Joseph Staline. Donc on est dans quelque chose qui est très post-soviétique, c'est-à-dire on a l'impression que le mur vient de tomber et qu'on est dans ces 10 ans qui ont séparé la reconstruction des pays de l'Est tels qu'on les connaît aujourd'hui, le tout malaxé par quelqu'un qui manifestement vient de la scène rock ou punk du coin, donc qui est plus un graphiste au départ et qui expérimente ici le récit en bande dessinée. Alors ce qui me frappe beaucoup, c'est que la narration est extrêmement fluide, on suit très bien ce qui se passe, tout en parfois ne comprenant pas du
absolument
tout
rien, oui.
Ce qui se passe. Et c'est ce qui donne le même sentiment qu'on peut avoir quand on lit certains poèmes extrêmement bien écrits, qu'on lira comme ça, sans trop savoir ce que ça nous raconte, mais qui finalement provoque un état assez étrange de malaise poisseux qui est assez fort. Quoi. Moi, je suis ravi de découvrir cet auteur. J'en ignorais absolument l'existence. Je remercie l'association de le faire émerger en France.
Oui, c'est une première publication en France pour cet auteur. Référence pour référence, moi, j'ai pensé aussi à Guy Madin, parce qu'on est quand même dans un monde dont on reconnaît certains styles, mais on se dit que c'est quand même pas tout à fait le nôtre. On est effectivement dans du post, mais alors post-soviétique, post-atomique, post-apocalyptique, dans un monde quand même, effectivement, où les identités sont quand même aussi assez confuses, et ça se retrouve aussi vous avez une magnifique double planche sous les yeux, mais ça se retrouve aussi formellement dans la façon dont peuvent s'interpénétrer les images chez lui.
En fait, moi, ça m'a aussi rappelé un peu le travail de Franz Masrel, sur les gravures très sombres, où effectivement, Masrel faisait une représentation d'un monde quasi au bord de l'apocalypse aussi très souvent, en tout cas au bord de la guerre, et ici on est effectivement toujours dans ça. Alors effectivement, comme disait Antoine Guillot, on est toujours dans un récit qui est très fluide, on s'y perd un peu parce qu'il y a des personnages étonnants qui arrivent, qui distraient, etc. Mais il y a quand même toujours des choses qui ramènent à quelque chose de réel, et c'est souvent ancré autour de la sexualité. Notamment cette page que nous regardions, elle est autour de ça, autour d'un rapport sexuel dans lequel on a l'impression qu'il y a deux personnages au début, et puis en fait il y en a un troisième qui arrive, le premier disparaît, et on est autour de ça, de corps qui s'encastrent les uns dans les autres, qui disparaissent l'un dans l'autre ou l'un au profit de l'autre. Et on est aussi beaucoup sur l'interrogation autour de ce que c'est qu'un corps, et notamment sur cette idée, là par exemple il y a beaucoup l'idée de d'un personnage qui est plus poilu que les autres, pourquoi, enfin comment la sexualité se joue comme ça, et aussi pourquoi est-ce qu'on rejette le corps de l'autre, parce que c'est toute cette histoire là tourne autour de ça, d'une femme qui rejette l'autre. Donc il y a ça qui, je crois, est un peu sous-jacent de manière un peu centrale, qui ramène à une espèce de réalité, la représentation de la sexualité ou en tout cas des corps, mais effectivement tout tend un peu à vous faire dériver dans une espèce de monde, comme je disais tout à l'heure, très très dystopique. On est totalement perdu. On a l'impression qu'effectivement il y a d'un coup la figure de Staline qui apparaît, qui est quand même une des figures les plus redoutables du siècle, et d'un coup on se dit oui, dans quel monde sommes-nous en train de rentrer, en fait. Et on a l'impression qu'il est en train de décrire ça. Et son côté punk fait qu'il n'a pas vraiment de limites. Et que ce qu'il dessine, ce qu'il raconte, finalement prend vraiment et fait assez peur à la fin du livre.
Antoine Guillaume.
Il y a aussi Tito et Ceaușescu, oui. Aussi qui ouais, apparaissent. Une scène étonnante d'onanisme chez Ceaușescu, ouais. Via la décoration de cette fameuse chanteuse. Et la question du corps est là, mais la question des classes aussi y est. C'est assez étonnant que ce qui était vraiment un tabou dans les sociétés communistes, qui normalement avait effacé toutes les classes pour qu'il n'y en ait qu'une seule, revient très souvent. Il y a ces ouvriers dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi la figure du zombie. Et là, il y a l'influence Romero est très, très évidente sur le zombie comme, enfin, l'épidémie zombie comme revanche du sous-prolétariat. Et la manière dont elle est décrite, cette épidémie, est très, à la fois frappante et réjouissante. On est quand même sans arrêt. Moi, en tout cas, j'oscillais sur l'admiration devant la beauté et l'intelligence graphique de cet auteur et l'horreur de ce qu'il nous raconte, qui est parfois extrêmement comique en même temps. Donc, c'est un auteur étonnant, quoi, vraiment.
C'est assez bien représenté dans l'espace du zoo qu'il met souvent en scène. C'est-à-dire qu'on est, on est dans un espace qui est censé être plaisant pour les enfants finalement, mais dans lequel il n'y a que des adultes qui ont des têtes complètement déformées, des yeux comme ça qu'on décrivait tout à l'heure. Ouais, et du coup on est dans ce monde où on se dit ça aurait dû fonctionner, mais en fait non, c'est un monde qui ne fonctionne absolument plus.
Et surtout le sentiment, parce qu'il y a eu beaucoup d'auteurs qui venaient d'ex-Yougoslavie, qui dès la chute du mur sont entrés sur le marché en Europe et ont fait des séries à l'appel, genre reprise de Lincal, Métabaron et autres, et qui avaient un dessin assez putassier, je dirais, dans le sens où il était fait pour plaire, il était fait pour s'exporter. Et il y en a eu d'autres à l'époque, des Rosinski à l'époque quand ils ont quitté la Pologne, etc. J'ai l'impression que ce
Igor
Hofbauer vous dit merde, hein, et s'en porte très bien comme ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour séduire, il est dans un univers qui est très autochtone, je dirais, de ces pays-là, et donc il nous exprime quelque chose d'extrêmement fort, quoi, qu'il n'est pas là pour essayer de singer l'auteur ouest-européen.
Moi ça me fait penser, c'est pas du tout le même trait, mais ça me fait un peu penser au Moebius de l'époque du Cauchemar blanc, c'est les années 70, quand il représentait justement la France qu'il voyait et qui était certains côtés cauchemardesques de l'époque. Donc on est un peu dans ce même registre de représentation.
Mr. Morgan d'Igor Hofbauer, traduit et traité par Johanna Mercade Mo, c'est à l'association
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Nous concluons cette émission avec le jeu de la dispute. Retour d'abord, Antoine Guillaume, sur le jeu d'hier au soir.
Qui n'est pas très loin du livre d'aujourd'hui, puisque c'était des invitations pour l'exposition Extra Fantôme à la Gaîté Lyrique que vous avez gagné. Je vous avais demandé quelle œuvre d'Offenbach faisait chanter un fantôme. Eh bien, c'est naturellement les Contes d'Hoffmann. C'est la mère d'Antonia, revenue d'entre les morts, qui revient pour un trio dans l'acte 3.
Des invitations à gagner ce soir pour l'exposition Apollinaire, le regard du poète jusqu'au 18 juillet au musée de l'Orangerie à Paris. Et pour les gagner, ces invitations, il faut répondre à quelle question ?
Quel peintre illustra de ses gravures en 1909 le recueil de poèmes d'Apollinaire, qui pourrait être le titre de Igor Hofbauer, l'enchanteur pourrissant ?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Joseph Gost, Antoine Guillot, d'y avoir pris part avec moi. Les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter ou podcaster nos émissions, un site sur lequel vous pouvez aussi nous écrire. La dispute est possible grâce à Hugo Boursier, Daniel Finot, Antoine Guillot, Flora Isidore et Virginie Le Duo. Prise de son assurée ce soir par Valérie Lavalard, réalisation signée Daniel Finot. Je vous donne rendez-vous lundi à 21h pour une dispute consacrée au spectacle vivant, en compagnie de Joël Gaillot et Philippe Chevillé, à notre affiche sur les cendres et en avant, texte et mise en scène de Pierre Note, c'est au rond-point. Et puis Valentina Tchernobyl, d'après Svetlana Alexeyevitch, mise en scène de Laure Roussel à la Manufacture des Abbesses. Je passerai un coup de fil à la chorégraphe et circassienne Chloé Molia pour parler de son nouveau spectacle, Aléa. Nous retrouverons Antoine Guillot pour la revue de presse culturelle de la dispute, les choix du chef d'orchestre et directeur de l'Opéra de Bordeaux, Marc Minkowski, qui sera l'invité de la dispute. Et puis il y aura bien sûr un nouveau cadeau à gagner. Tout cela, c'est pour lundi. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture à 22h15, hors champ par Laure Adler, et dans quelques instants, le journal de la rédaction.